Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Israël-Gaza, 6 mois après, le monde a-t-il changé? Et en Turquie, est-ce le début de la fin pour Erdogan? Nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le tout dernier numéro, celui d'avril, est consacré au projet européen à l'épreuve. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales pour une approche subjective des relations internationales. C'est le titre de votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour Hervé.
Éditorialiste au Monde, Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, titre de votre dernier livre chez Stock. Et Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Directeur de l'IFRI, l'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. Vous l'avez publié il y a quelques semaines chez Talendier. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les résultats des élections municipales en Turquie dimanche dernier. Victoire de l'opposition kémaliste, défaite de l'AKP, le parti au pouvoir, et donc des aveux pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Simple péripétie pour ce dernier, ou bien est-ce le début de la fin? Nous en débattrons. Mais tout de suite, notre premier sujet.
Israël en état de guerre, le pays s'est réveillé ce matin sous une pluie de roquettes palestiniennes, offensive massive et surprise du Hamas depuis la bande de Gaza. Des dizaines de blessés en Israël, des centaines côté palestinien et puis on parle aussi de ces civils israéliens pris en otage. On est sur place avec notre correspondant sur le terrain tout près de la bande de Gaza.
Oui Flore, je suis dans une station service au dernier checkpoint sur la route qui mène au sud vers la bande de Gaza. Il y a ici de la fumée noire et une odeur âcre après le déluge de roquettes qui ont embrasé les champs autour d'Ashdod. Au loin, on entend régulièrement des explosions. Gaza est bombardée. Il y a aussi des ambulances qui vont et qui viennent entre la zone qui nous est interdite et les hôpitaux les plus proches.
Voilà, c'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 7 octobre 2023. Le Hamas attaque Israël. Attaque massive. Des centaines d'assaillants investissent le territoire israélien et sèment la terreur et la mort sur leur passage. Quelques 1200 civils sont tués. Environ 250 personnes sont prises en otage. L'État hébreu n'avait jamais subi une telle agression. Le pays est sous le choc, comme une partie du monde. Les violences relatées sont insoutenables. En représailles, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet d'anéantir le Hamas, organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Assez vite, pourtant, Israël va passer du statut d'agressé à celui d'agresseur, du moins le gouvernement israélien. Sa riposte militaire, bombardement massif et opérations terrestres d'envergure et le blocus du territoire provoquent de nombreuses victimes civiles. Plus de 33 000 morts à ce jour, selon le Hamas. La famine s'installe, les condamnations fusent. 6 mois après le cataclysme du 7 octobre, Israël paraît plus isolé que jamais. Le pays a fait l'objet d'une procédure devant la Cour internationale de justice, lui enjoignant d'empêcher les actes de génocide. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réclame un embargo sur les armes qui lui sont destinées. Quant à l'allié américain, il perd patience. En s'abstenant au Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mars, les États-Unis permettent l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza. Alors avant le 7 octobre, le conflit israélo-palestinien semblait avoir été mis de côté. L'onde de choc provoquée par son retour violemment spectaculaire est à la fois locale, régionale et globale. Est-ce à dire que 6 mois après, le monde a changé? Thomas Gomard, si on se reporte 6 mois en arrière, comme on le faisait au tout début donc, de cette émission avec cette archive, ce qui paraît le plus improbable aujourd'hui, 6 mois après, c'est l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Comment est-ce qu'en 6 mois, on est passé d'un pays attaqué à un pays qui aujourd'hui fait figure, pour un certain nombre de pays, en tout cas, d'agresseurs?
Ouais, je vois 3 raisons principales pour ce changement, d'une certaine manière, dans la compassion. Effectivement, les attaques du 7 octobre ont frappé l'opinion par leur caractère inattendu. C'est du terrorisme militarisé sur le territoire d'Israël, à peu près 1400 morts le même jour dans les conditions que l'on sait, et un soutien apporté à Israël dans son droit à la légitime défense immédiat par 5 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France. Et puis, 6 mois après, effectivement, vous l'avez souligné dans votre introduction, il y a cet isolement d'Israël qui s'explique, à mon avis, principalement par la férocité de la réponse d'Israël et de Tsahal. le fait que la réaction au terrorisme est toujours ou de la sous-réaction ou de la surréaction. Et qu'à l'évidence, les Israéliens ont choisi la surréaction. Ça conduit au deuxième point, c'est-à-dire qu'à mon avis, les objectifs affichés par Israël sont irréalistes, l'éradication du Hamas, et ils se font au prix de pertes civiles dont vous avez rappelé l'ampleur, suscitant au fond une réprobation de plus en plus unanime, avec des États-Unis qui sont en train de changer de pied. Avec, je pense aussi, une opinion qui modifie son attitude vis-à-vis d'Israël. Donc ça fait deux éléments principaux, si vous voulez. À mon avis, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est les effets régionaux en fait de cette déflagration, avec à mon sens un pays qui s'en sort renforcé de cette situation, c'est l'Iran. Puisque l'Iran soutient le Hamas, l'Iran soutient les Houthis également, lesquels font un lien direct entre leurs attaques contre des navires et la cause palestinienne. Et donc on est aujourd'hui dans une situation qui pose la question tout simplement aussi de l'avenir politique du gouvernement Netanyahou, lequel est contesté de plus en plus fortement. Mais c'est une contestation en même temps qui, en Israël, ne franchit pas un certain seuil qui est celui de l'unité nationale pour un pays se considérant dans une guerre existentielle.
Alors on reviendra dans quelques minutes sur les conséquences régionales, mais avant cela, pour rester sur le début de votre intervention, Thomas Gomard, et sur cet effritement du soutien à l'égard du gouvernement israélien, et notamment un effritement du côté de son principal allié, à savoir les États-Unis, Anne-Lorraine Bujon. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer profondément? Je rappelle donc fin mars, les États-Unis s'abstiennent lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, abstention qui permet l'adoption d'une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Est-ce que ça, il faut y voir un événement politique majeur et peut-être aussi une forme de tournant?
Alors, je pense que cette abstention des États-Unis au moment du vote pour demander à nouveau un cessez-le-feu, elle a effectivement une grande portée symbolique, mais c'est une abstention. En un sens, les États-Unis ne peuvent pas encore aller plus loin. De même que les débats qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, on a vu d'abord une certaine jeunesse, plutôt dans les campus, prendre fait et cause pour les Palestiniens, mais aussi dans certains États maintenant où il y a une population arabo-musulmane américaine. On voit aussi des mouvements d'opinion en faveur des Palestiniens qui n'auraient pas été aussi visibles ou audibles autrefois. Et puis il y a maintenant un débat sur la vente d'armes qui montre bien qu'il faut distinguer entre les discours et les actes des Américains. Et donc... Oui, les choses évoluent, oui, il y a des inflexions, mais sur le fond d'une alliance des États-Unis avec l'État d'Israël, si vous voulez, qui est vraiment un des axes structurants de la politique étrangère depuis au moins les années 70. Et ça n'est pas une chose qu'on peut faire bouger en une nuit, ni même en une semaine, ni même en 6 mois, et avec cette quantité de destruction et de morts. Donc moi, ce qui me semble, c'est que le président Biden et son ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, sont en réalité assez constants dans leur attitude depuis le 7 octobre, c'est-à-dire soutien à Israël, mais pression maintenant pour arrêter cette guerre de destruction qui est menée aussi au mépris du droit de la guerre, du droit international.
Mais pression qui pourrait aller jusqu'à un vote d'une résolution, c'est-à-dire non plus une abstention, mais adopter une résolution qui serait défavorable au gouvernement israélien?
Alors, il y a l'attitude des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais j'ai tendance à penser que plus important est le débat interne sur en fait l'aide matérielle effective que les États-Unis continuent d'apporter à Israël. Et donc maintenant, vous voyez dans les journaux, on vous dit les bombes qui tombent sur Gaza en ce moment, c'est précisément le type d'armement que les États-Unis livrent à l'État d'Israël. Donc moi, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder pour voir si il peut y avoir un vrai tournant. Mais encore une fois, on ne fait pas changer un axe aussi fondamental du jour au lendemain.
Inflexion davantage que tournant, Bertrand Badie.
Oui, j'ai un sentiment un petit peu différent, enfin qui n'est pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit par les deux précédents intervenants, mais qui voit les choses peut-être différemment. En fait, cette séquence est un échec redoutable pour la diplomatie américaine et, je dirais, pour la puissance américaine. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi ? Ben, parce que on voit le secrétaire d'État Blinken 6 voyages au Proche-Orient, ça fait presque le rythme de 1 par mois. Le président des États-Unis qui s'est rendu une fois, qui n'arrête pas d'être au téléphone, il doit avoir une note téléphonique absolument faramineuse, n'est-ce pas ? Et finalement, une capacité de pression, terme que vous employez, qui est extrêmement réduite, qui se double d'un isolement réel. Je pense que les États-Unis aujourd'hui, paradoxalement, sont encore plus isolés que ne l'est Israël, qui ne l'est pas tant. Pourquoi ? Eh bien parce que le vote au Conseil de sécurité est quand même assez remarquable et significatif, que la superpuissance se retrouve seule dans une attitude de surcroît d'abstention, alors que les 14 autres avaient un vote différent, est déjà une indication paradoxale de ce qu'est et de ce qui reste de l'hégémonie américaine sur le système international. Je pense que les États-Unis vivent cette séquence comme un double cauchemar, dans la mesure où se trouve démontrée chaque jour leur impuissance face à leurs alliés, face à d'anciens alliés qui ne le sont plus. C'est-à-dire, côté arabe, il y a une véritable hémorragie. Pensez à l'attitude nouvelle de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, autrefois alliés inconditionnels des États-Unis. Pensez effectivement à l'Iran, autrefois le Shah était le pilier de l'influence américaine dans la région, et pensez à la Turquie, je pourrais ainsi continuer. Donc c'est un échec gravissime, et la preuve que les États-Unis n'ont pas le levier d'Archimède dans le conflit proche-oriental, sont pratiquement dépouillés de tout moyen d'agir.
Alors peut-être n'ont-ils pas envie d'utiliser tous les moyens qu'ils ont à disposition, parce qu'ils en ont.
S'ils n'ont pas envie d'utiliser tous les moyens et que par ailleurs, sans utiliser ces moyens, ils ne peuvent rien faire, c'est quand même une indication, on ne peut plus clair, d'impuissance. Alors que Israël, il faut quand même pas oublier une chose très simple. Quel État dans le monde serait autorisé à faire 33 000 morts, au moins, plus, et dans ces 33 000, probablement 25 000 femmes et enfants, sans la moindre sanction de la part de quiconque dans la communauté internationale? Qui aurait ce privilège? Ce qui prouve que c'est pas un isolement tellement fort. Alors, entre des pressions rhétoriques des États-Unis et la certitude de l'impunité, bah, effectivement, je trouve qu'Israël se trouve dans une position assez confortable.
Sylvie Kaufmann, vous êtes d'accord avec ça? C'est davantage l'impuissance américaine que l'isolement israélien qui caractérise ces 6 mois qui viennent de se dérouler.
C'est-à-dire, Bertrand Badi parle d'échec redoutable de la diplomatie américaine. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Mais c'est aussi un échec redoutable de tout le monde. C'est-à-dire, si vous faites le bilan de ces 6 mois, donc vous avez effectivement l'impuissance, la faiblesse de la diplomatie américaine, vous avez la passivité des Européens, vous avez l'impuissance de l'ONU, ça on le savait déjà, mais enfin là on en a une fois de plus la preuve. On a la passivité des pays arabes, dont aucun des 6 pays arabes qui entretient des relations diplomatiques avec Israël ne les a rompus, à ma connaissance, ou n'a rappelé son ambassadeur. Donc, on a de ce côté-là aussi une inertie qui est coupable. On a l'absence des autres grandes puissances. On a un jeu trouble de la Chine et de la Russie et d'autres dans ce conflit. On a l'échec, évidemment, de la stratégie israélienne, dont on ne sait pas trop en quoi elle consiste, finalement. Donc, en tout cas, l'objectif primaire qui est était d'éradiquer le Hamas, de toute évidence, n'a pas été atteint au bout de 6 mois, puisque il y a 4 mois, je crois, 4 mois après avoir essayé de nettoyer ce grand hôpital Al-Shifa, qui était parce qu'il était utilisé en principe, enfin c'est ce qui était l'explication par comme quartier général du Hamas, les forces israéliennes sont obligées d'y revenir pour le démolir complètement. Donc ça On voit bien que chaque fois, le problème se recrée là où on pense qu'il a été supprimé. Donc, et l'autre résultat qu'on a finalement, c'est la possibilité d'une extension du conflit avec cette guerre derrière la guerre, en fait, qui est celle avec l'Iran, d'Israël et de l'Iran. Et donc, cette attaque qui a eu lieu cette semaine d'Israël contre le consulat d'Iran à Damas et au cours de laquelle ont été tués 3 ou 4 généraux iraniens. Donc l'Iran a promis de riposter. On verra comment ça se passe. Il y a cette autre dimension qui est que est-ce que Israël et l'Iran veulent vraiment en venir à une guerre beaucoup plus étendue. Mais enfin, autre dimension. Oui,
est-ce que ça, Sylvie Kaufmann, ce tableau que vous brossez, ça veut dire qu'il n'y a que des perdants?
Bah pour l'instant, on ne voit pas où sont les vainqueurs, en tout cas. Je ne vois pas où sont les vainqueurs. J'aurais beaucoup de mal à en identifier. Alors, effectivement, c'est très intéressant ce qui se passe, la conséquence de ce jeu, si je peux qualifier ça de jeu, mais de ce qui se passe entre les États-Unis et Israël. On voit bien à quel point Biden est coincé et comment il évolue petit à petit, mais sans jamais déclencher le vrai levier qui est celui de l'aide militaire, ou au moins de conditions à apporter à cette aide militaire. Et ça, il n'y arrive toujours pas, alors qu'on voit le soutien électoral qui s'effrite, qu'il risque même peut-être de jouer son élection dans cette affaire. Donc, c'est vrai que lui aussi a certainement une des raisons qui le pousse à cette immense prudence et cette immense retenue vis-à-vis d'Israël, c'est la crainte de l'embrasement du conflit depuis le début, ça c'est certain. Mais là, on va peut-être y arriver. Donc, c'est un bilan absolument terrible où on ne voit pas la stratégie de sortie. Israël n'en a pas. Alors, il y a ce qui se passe en Israël, en revanche. Vous savez, dans les conflits, on se demande souvent, est-ce qu'il y a un moment où, dans les conflits qui s'enlisent, est-ce qu'il y a un moment où il y a un événement qui fait tout basculer, comme par exemple le massacre de Srebrenica dans le conflit bosniaque et là, je me suis demandé si cette attaque contre les humanitaires de World Central Kitchen, il y a cette ironie qu'il faille que ça soit 6 étrangers qui soient tués pour que tout d'un coup, vraiment, on s'émeuve réellement ou on essaye de bouger. Je me suis dit, est-ce que ça peut faire basculer? Ça fait un petit peu bouger les lignes aux États-Unis. Mais en Israël, on voit bien que les choses sont encore très figées. C'est vrai que la majorité dans les sondages, la majorité des Israéliens souhaitent le départ de Benjamin Netanyahou, mais je crois que les sondages disent que 88% des Israéliens sont toujours pour la poursuite des opérations militaires, y compris à Rafah. Donc là, on a quand même une situation, malgré ces manifestations, qui reste très, très figée.
Pas de vainqueur, mais vous nous disiez quand même tout à l'heure, Thomas Gomard, l'Iran, à la faveur de ce conflit, a repris une position, si ce n'est favorable, mais enfin en tout cas moins isolée peut-être qu'elle ne l'était auparavant.
Je ne sais pas si devant un tel champ de ruines, on ne veut pas être vainqueur, mais je pense qu'il y a quand même deux pays, si on raisonne par rapport à des logiques de puissance étatique, il y a deux pays qui bénéficient du 7 octobre. Donc il y a l'Iran, pour les raisons précédemment évoquées, le fait aussi que l'Iran réprime très sévèrement en interne, mais accélère son programme nucléaire et sent bien que il dispose aujourd'hui de moyens d'influence au-delà du Proche et du Moyen-Orient. L'Iran devient un acteur de la sécurité européenne en soutenant la Russie. Ça me conduit justement au deuxième point, qui est le 7 octobre, bénéficie à la Russie sur deux aspects. D'abord, ça a créé un effet d'éviction du sujet ukrainien de l'agenda international, même si ça reste évidemment un sujet très, très important. Mais il y a eu un déplacement d'une certaine manière des ressources politiques après le 7 octobre. Et puis surtout, ça permet à la Russie d'illustrer son discours sur le double standard, c'est-à-dire cette idée sur laquelle il y a des pays qui sont sanctionnés et des pays qui ne le sont pas. Et effectivement, de ce point de vue-là, je pense que dans l'explication du changement de compassion, il y a aussi le fait que l'attitude d'Israël en Cisjordanie, la poursuite de la colonisation, avec les moyens que l'on sait, fait l'objet d'une réprobation quand même de plus en plus exprimée. Elle l'a été très peu, en fait, auparavant. Elle l'est davantage. Et en fait, je pense que ce que ça traduit, c'est le fait que le gouvernement Netanyahou envoie un signal au monde qu'il ne veut pas de solution politique C'est ça, en fait. C'est une sorte de... Ce que propose, au fond, Netanyahou, c'est une sorte de poursuite de guerre permanente qui justifie l'organisation du pouvoir en Israël et qui le permet, et qui lui permet, jusqu'à quand c'est la question, de se maintenir au pouvoir.
Bertrand Badi.
Oui, je vais relancer mes désaccords amicaux avec Thomas. Je ne vois pas l'Iran, ni la Russie, d'ailleurs, comme gagnant dans cette affaire. L'Iran est très paralysé, hein, paralysé par une société civile qui échappe de plus en plus au contrôle du gouvernement de la République islamique, qui est un pouvoir affaibli, et l'Iran a beaucoup de mal, pour prendre un cas tout à fait immédiat, à trouver une réaction à l'attaque que l'armée israélienne a lancée contre un bâtiment diplomatique iranien en Syrie. Parce que c'est très très difficile de jouer ce jeu où il faut s'opposer sans être véritablement belligérant. Je dirais, à la limite, l'Iran est exactement sur le conflit israélo-arabe dans la position de l'Union européenne sur le conflit ukrainien, c'est-à-dire co-belligérant, non-belligérant. Et ça, c'est une attitude qui est extrêmement coûteuse, parce que difficile à tenir, et aux revenus incertains. Je ne crois pas non plus que la Russie soit gagnante dans cette affaire, parce que la Russie avait énormément investi dans la normalisation de ses relations avec Israël. Jouant la carte du leadership du Sud, la Russie est contrainte de modérer ce réalignement ce rapprochement avec Israël, sans véritablement gagner grand-chose en échange. En revanche, je crois qu'il y a deux gagnants et un perdant. Il y a un gagnant à très court terme, c'est Netanyahou. C'est-à-dire, cette guerre lui a permis d'échapper à la justice, d'échapper à de nouvelles élections, et, comme le suggérait Sylvie, a créé un très curieux consensus avec l'opinion publique israélienne qui majoritairement le déteste, mais qui se retrouve avec lui dans l'idée qu'il faut poursuivre la guerre. C'est-à-dire, les intérêts de Netanyahou et les aspirations de la grande majorité du peuple israélien vont dans le même sens, ce qui consolide la position de Netanyahou, ce qui est absolument contradictoire, mais vrai.
Ça, c'est le vainqueur à court terme.
À court terme. À long terme, alors, je vais peut-être étonner, voire choquer, mais il faut bien comprendre que c'est un raisonnement à froid. Moi, je pense que loin d'être éradiqué, le Hamas a vu son statut renforcé. Il est renforcé parce que des sondages, alors je suis d'accord, les sondages, hein, que valent-ils, mais indique qu'il y a une majorité de Gazaouis qui soutiennent le Hamas, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'au 6 ou 7 octobre, n'est-ce pas ? Qu'il y a une solidarité dans la souffrance et la rage, je dirais, et que, surtout, le Hamas, exactement comme le FLN après la bataille d'Alger, c'est exactement la même situation, gagne une stature internationale. On entend même le porte-parole du département d'État ou de la Maison-Blanche faire état des espoirs suscités par le dernier communiqué du Hamas, ce qui est absolument ahurissant.
C'est même si le pouvoir, il est quand même du côté de l'autorité palestinienne, qui vient de nommer un nouveau gouvernement,
oui,
qui est censé être la représentation des Palestiniens.
Formel et institutionnel, mais que vaut-il ? Celui que l'on écoute, que l'on regarde avec crainte et avec anxiété, c'est le Hamas, c'est pas l'autorité palestinienne. Donc, quand Monsieur Netanyahou disait il va éradiquer le Hamas, voir ce que ça signifie. Le grand perdant, c'est la paix. C'est la paix parce qu'on est en train de banaliser. Alors, le grand perdant, c'est d'abord les morts, hein, la famille des morts et les blessés. Mais ce que l'on voit, c'est se banaliser cette formule commune au conflit russo-ukrainien et au conflit israélo-palestinien. Il n'est pas question de négocier. Ça, c'est dans quatre bouches en même temps. Et c'est quelque chose qui peut inquiéter pour l'avenir de la paix.
Alors, si le gagnant à court terme, c'est Netanyahou, et le gagnant à un peu plus long terme, c'est le Hamas, ça n'incite guère à l'optimisme, Sylvie Kaufmann.
Non, alors, sur Netanyahou, peut-être qu'il est gagnant à court terme, mais je dirais vraiment malgré lui. En réalité, pourquoi est-ce que cette unanimité en Israël persiste ? C'est à cause du traumatisme du 7 octobre. C'est parce que ce qui a été commis le 7 octobre est vécu comme le pire pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait revenir le spectre de la Shoah. C'est vraiment, ça ramène les Israéliens à cette peur existentielle. essentiel pour leur État. Donc, cette unanimité se fait derrière le leader, évidemment, qui est là, qui se trouve être là. Mais on voit bien en même temps que les gens souhaitent son départ à lui. Et je dois dire que Benny Gantz aussi, par exemple, réclame des élections. Les Américains, maintenant, le sénateur Chuck Schumer a réclamé aussi des élections. Donc, lui-même, comme leader, est quand même assez fragilisé, je dirais. Mais il y a cet effet, effectivement. Moi, ce qui me rappelle un petit peu ce qui s'est passé le 11 septembre. Rappelez-vous que Joe Biden, au début, a demandé aux Israéliens, a dit, ne commettez pas, après, tout de suite après le 7 octobre, ne commettez pas les mêmes erreurs que nous après le 11 septembre. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et alors, il y a un symptôme que je trouve très intéressant et assez alarmant pour tout le monde. Il y a une interview dans Le Monde ce week-end d'un spécialiste des médias en Israël et qui explique, qui décrit la couverture de la guerre de Gaza par les médias israéliens. Et à quelques rares exceptions près, comme le quotidien Haaretz, par exemple, il y a cette unanimité qui est que on invisibilise les victimes palestiniens, on ne veut pas voir, et cette absence de questionnement des médias israéliens. Or, Israël est une démocratie, comme les États-Unis sont une démocratie, et on a bien vu après le 11 septembre comment des médias remarquables, comme le New York Times, se sont laissés manipuler, enfumer et ont oublié leurs critères et leurs principes professionnels. Enfin, à cause de cette unanimité du peuple américain qu'il y avait après les attaques du 11 septembre. Donc, je trouve que c'est une leçon pour nous tous, à vrai dire, tout pays démocratique, de voir à quel point finalement notre liberté d'expression peut être fragilisée par ce genre d'attaque. Mais cette petite digression pour dire que ça n'est pas je ne pense pas que Netanyahou soit vainqueur de cette affaire parce que quand il finira bien par partir.
À court terme.
Et à court terme, voilà. Et le début de solution commencera peut-être au moment où il partira.
Alors, est-ce que le début de solution peut aussi se trouver dans les institutions internationales? Alors, vous avez dit, je ne sais plus lequel d'entre vous, que pour l'instant, en tout cas, elles n'avaient pas du tout montré leur efficacité. Il y a quand même eu donc cette résolution qui a été votée à l'ONU. Il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui demande à ce qu'il y ait un embargo sur les armes à destination d'Israël. Il y a eu cette initiative de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice pour prévenir un risque de génocide dans la bande de Gaza. Lorraine Dujon, alors certes, ça n'a pas été suivi des faits, mais est-ce que ça ne montre pas quand même que ces institutions-là, elles existent et qu'elles sont utilisées au-delà des seuls Européens et Américains? C'est-à-dire qu'il y a aussi une globalisation de la diplomatie qui fait qu'on se sert aussi de ces institutions.
Alors, je crois que c'est...
J'essaie de trouver quelque chose d'un peu optimiste.
C'est une lecture que j'ai voulu faire, moi aussi, au moment où l'Afrique du Sud avait saisi la Cour internationale de justice, de se dire, c'est formidable, le droit international n'est pas complètement mort, on ne pourra plus dire que les institutions internationales appartiennent aux Occidentaux. Mais à vrai dire, quelques mois plus tard, je n'arrive pas, moi, à avoir un espoir de ce côté-là. Je crois, au contraire, si vous voulez, que, en effet, on assiste à des recompositions internationales. Vous demandiez si le monde a changé. Ben oui, le monde a changé, mais malheureusement, il ne change pas du tout dans le bon sens. Et en plus, il y a surtout des effets, si vous voulez, non pas de rupture ou de tournant majeur. Le 7 octobre restera comme un jour sanglant, épouvantable. Mais en réalité, il y a des effets de continuité et d'empilement de tous les conflits depuis 10, voire 20 ans. Sylvie Kaufmann parlait du 11 septembre. Mais si on pense à cette succession, si vous voulez, Syrie, Ukraine, la petite incursion de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et maintenant Gaza, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire que ce sont des conflits où ce sont les populations civiles qui payent le plus grand prix, ce sont des conflits où on voit très bien que l'utilisation de la technologie ne mène pas du tout à des guerres propres, ça mène à des guerres très sales, enfin on voit maintenant les bombardements qui ont été guidés par l'intelligence artificielle au mépris du décompte des civils qui pouvaient être être là et en faire les frais. Donc voilà, et maintenant la famine, donc on a la superposition en fait des différentes formes de guerre, les conflits anciens et les conflits modernes, avec ces guerres de l'information dont parle Sylvie aussi. Et quand même, qu'est-ce qui sort renforcé de ces 6 mois? C'est le fanatisme religieux, millénariste, nourri par des visions de fin du monde, et pas seulement dans l'islam, si vous voulez. Donc tout ça ne va pas dans le sens de la paix, c'est sûr.
Oui, permettez-moi de vous démolir un peu plus le moral.
Oh.
Quand vous parlez des institutions internationales, je voudrais juste faire 3 remarques. La première, c'est que vous savez que les résolutions du Conseil de sécurité, comme les ordonnances de la Cour internationale de justice, sont contraignantes. Bon, et qu'a dit Israël? Il dit, bah, vous pouvez décider tout ce que vous voulez, de toute façon, nous, on n'est pas, on ne suivra pas. Donc, il y a, et c'est un élément qu'on n'a pas suffisamment mis en évidence, une déclaration explicite, ce qui est rare dans la chronique onusienne, la remise en cause du déni de la nature contraignante des résolutions.
La Russie se gêne pas non plus.
Ah oui, mais elle a le veto, c'est différent. Elle a le droit juridique de ne pas être liée, ce qui est terrible, n'est-ce pas? Elle a le droit, pardon, je fais un pléonasme, le droit qui lui est reconnu, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Là, c'est quelqu'un auquel on ne reconnaît pas ce droit qui dit, mais moi, de toute façon, je suis le 6e membre permanent du Conseil de sécurité, je ne veux pas. Bon, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que si vous regardez attentivement les textes, et notamment le texte de la dernière résolution, elle est contraignante, mais elle n'est assortie d'aucune sanction. Donc, si un État, Israël, en l'occurrence, ne respecte pas cette résolution, il n'y a aucune sanction contre. Donc, pourquoi voulez-vous que je me plie, puisque je ne serai pas sanctionné? C'est gagnant-gagnant dans cette affaire. Et je crois, troisième remarque que je voulais faire, c'est que derrière cette inefficacité, inefficience des Nations Unies, des institutions internationales, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en évidence, c'est que les guerres échappent de plus en plus à la logique de puissance et à la logique des grandes puissances. Tant que les guerres appartenaient à la logique de grandes puissances, ce qui était l'esprit de la Charte des Nations Unies de 1945 qui n'a pas été modifiée, eh bien effectivement, le jeu d'équilibre entre puissances pouvait agir comme frein, voire comme imposition de la paix. Aujourd'hui, de plus en plus, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, qu'il s'agisse de tous les conflits africains dont tout le monde se moque et personne ne parle, hein, il y a eu 7 millions de morts au Congo depuis 25 ans, ça a aucune importance, c'est des Africains, ça fait rien. Bon, mais tous ces conflits-là échappent complètement aux logiques de puissance. Donc, par définition, les institutions internationales fabriquées au temps des grandes puissances n'ont plus aucune efficacité.